Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent est un guide de communication parentale écrit par Adèle Faber et Elaine Maslisch. Cette édition française propose une méthode pratique destinée aux adultes qui souhaitent sortir des affrontements répétitifs avec les enfants sans renoncer aux règles familiales. Le livre ne présente pas une théorie globale du développement de l'enfant ni une recette de discipline universelle. Il organise plutôt des habiletés de langage et d'écoute applicables aux situations ordinaires, colère, refus, rivalité, désordre, demandes répétées ou conflits autour des limites. Les auteurs partent d'une idée centrale, un enfant coopère plus volontiers lorsqu'il se sent entendu, respecté et associé de manière adaptée à la résolution des problèmes. Les chapitres combinent explications, témoignages, exercices, fiches récapitulatives et bandes dessinées opposant des réponses habituelles à des formulations plus constructives. L'objectif est de transformer les échanges quotidiens en limitant les humiliations, les menaces et les luttes de pouvoir. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, accueillir les sentiments avant de chercher à corriger le comportement. Le premier axe du livre consiste à prendre au sérieux les émotions de l'enfant, y compris lorsqu'elles paraissent excessives, injustifiées ou gênantes pour l'adulte. Les auteurs distinguent clairement valider un sentiment et approuver un comportement. Dire qu'un enfant est déçu, furieux ou inquiet ne signifie donc pas autoriser les cris, les coups ou le non-respect d'une règle. Cette distinction est déterminante. La négation immédiate d'une émotion tend à prolonger le conflit, car l'enfant doit alors défendre à la fois son besoin et son vécu. La méthode invite plutôt le parent à écouter, à nommer avec sobriété ce qui semble ressenti et à laisser une place à l'expression par les mots, parfois par le dessin ou l'imaginaire. Une telle réponse ne résout pas mécaniquement le problème matériel, mais elle peut diminuer la tension qui empêche toute discussion. Le livre insiste aussi sur la retenue du parent. Donner trop vite une leçon, une explication ou une solution peut faire obstacle à l'écoute. Cette approche a une portée éducative concrète, car elle aide l'enfant à identifier son état intérieur et à développer progressivement un vocabulaire émotionnel. Elle demande toutefois une pratique régulière, particulièrement lorsque l'adulte est pressé ou lui-même irrité. Deuxièmement, obtenir la coopération par des demandes observables et respectueuses. Le livre remet en cause le réflexe des ordres répétés, des sermons et des reproches globaux. Ces formes de langage donnent souvent à l'enfant l'impression d'être attaqué plutôt que guidé, ce qui favorise les oppositions ou le retrait, pour susciter la coopération. Faber et Maslisch proposent des interventions brèves et centrées sur la situation, d'écrire ce qui doit être fait, fournir une information utile. Exprimer clairement une attente ou formuler une demande précise. Le changement paraît modeste, mais il déplace l'échange. Au lieu de qualifier l'enfant comme paresseux ou désobéissant, le parent attire son attention sur une action concrète et réalisable. Les auteurs accordent aussi une place au choix limité, lorsque plusieurs options sont réellement acceptables. Ce procédé donne une marge de décision sans transférer à l'enfant une responsabilité qui revient à l'adulte. La coopération n'est donc pas confondue avec une obéissance obtenue par pression. Elle se construit par des messages compréhensibles, une attention au contexte et des limites constantes. Les exemples illustrés montrent que le vocabulaire ne suffit pas isolément. Une demande respectueuse reste plus crédible si elle est suivie avec calme. Le livre propose ainsi une alternative opérationnelle aux escalades verbales du quotidien, sans promettre que toute résistance disparaisse. Troisièmement, remplacer la punition par la réparation, les limites et la résolution de problèmes. Un apport distinctif de l'ouvrage concerne la critique de la punition comme instrument principal de discipline. Les auteurs ne soutiennent pas l'absence de cadre. Elles cherchent plutôt à séparer la nécessité de protéger, de limiter ou d'intervenir, du désir de faire souffrir l'enfant pour lui donner une leçon, selon leur logique. Les humiliations, menaces et sanctions arbitraires risquent de déplacer l'attention. L'enfant se concentre sur la colère envers l'adulte, sur la peur ou sur l'évitement, plutôt que sur les conséquences de son acte pour autrui. Les alternatives décrites comprennent l'expression ferme du désaccord, le rappel de la règle, la réparation d'un dommage. Une conséquence liée à la situation et, lorsque cela est possible, une recherche conjointe de solutions. Cette démarche exige de l'adulte qu'il distingue les besoins immédiats de sécurité des conflits qui peuvent attendre une discussion. Elle ne suppose pas que l'enfant dispose toujours de la maturité nécessaire pour négocier. Le parent conserve sa responsabilité de décider et de protéger. Mais après l'apaisement, associer l'enfant à une solution peut lui apprendre à considérer les besoins de chacun et à assumer une part de responsabilité. La méthode est donc moins une permissivité qu'un déplacement du contrôle par la crainte vers l'apprentissage de la réparation et de la coopération. Quatrièmement, développer autonomie et estime sans étiqueter ni flatter artificiellement. Faber et Maslisch relient la qualité de la communication au développement de l'autonomie. elles encouragent les adultes à laisser l'enfant accomplir ce qu'il peut faire, à ne pas répondre immédiatement à chaque difficulté et à reconnaître les efforts qui conduisent à une compétence. Cette orientation ne consiste pas à abandonner l'enfant face à une tâche trop complexe. Elle invite à ajuster l'aide afin de ne pas transformer la sollicitude parentale en dépendance durable. Le livre traite également du compliment en opposant les évaluations vagues ou globales à une description attentive des faits. Une appréciation qui relève une action, une persévérance ou une attention donnée à autrui permet davantage à l'enfant de tirer lui-même une conclusion positive sur ses capacités. Cette prudence évite aussi de faire de la valeur personnelle un jugement permanent délivré par l'adulte. Le chapitre sur les rôles complète cette idée. Les enfants peuvent finir par se conformer aux étiquettes qui circulent dans la famille, telles que maladroit, difficile, timide ou irresponsable. Les auteurs proposent de repérer les occasions où l'enfant agit autrement et de lui offrir de nouvelles expériences de compétences. Le but n'est pas de nier une difficulté réelle, mais d'éviter qu'elle devienne une identité figée. Ainsi, autonomie, encouragement et regard parental sont traités comme des leviers étroitement liés. En dernier lieu, une pédagogie par scène. Exercice et rappel adapté aux conflits quotidiens, la forme du livre explique une part importante de sa longévité dans la littérature parentale. Au lieu de se limiter à des principes généraux, les auteurs mettent en regard des dialogues courants et des réponses alternatives. Les bandes dessinées rendent visibles des détails qui échappent parfois dans une explication abstraite le ton accusateur, l'interruption, la généralisation ou le passage trop rapide au conseil. Les lecteurs peuvent ainsi reconnaître leurs propres habitudes sans que le livre les réduise à de mauvais parents. Les exercices et fiches de rappel favorisent une utilisation graduelle. Il est possible de travailler une habileté dans une situation précise, puis d'observer ce qui facilite ou bloque son emploi. Cette dimension pratique est cohérente avec le propos des auteurs, modifier un échange familial demande davantage que comprendre intellectuellement une idée. Il faut trouver des formulations naturelles, supporter une réaction initiale parfois négative et recommencer. Le livre ne masque pas entièrement cette difficulté, même si certains exemples peuvent sembler plus fluides que la réalité familiale. Son intérêt réside précisément dans cette médiation entre un idéal relationnel et les incidents ordinaires. La structure en six grands domaines offre une carte claire des problèmes abordés: sentiments, coopération, punition, autonomie, compliments et rôles. Elle permet au lecteur de revenir directement au sujet qui correspond à une difficulté présente. En conclusion, ce livre conviendra principalement aux parents, aux proches et aux professionnels de l'enfance qui cherchent des outils concrets pour améliorer les échanges avec des enfants. Il peut être particulièrement utile lorsque le quotidien est marqué par les refus, les crises, les rappels incessants ou une impression de conflit permanent. Son bénéfice pratique ne réside pas dans une promesse de relation toujours calme, mais dans l'apprentissage de réponses plus précises, écoutées avant de corriger. Décrire plutôt qu'accuser, poser des limites sans humilier et rechercher une réparation plutôt qu'une punition automatique. Les lecteurs y trouvent également un intérêt intellectuel plus large, car l'ouvrage montre comment le langage des adultes influence le sentiment de compétence, la capacité à exprimer les émotions et la place que l'enfant occupe dans la famille. Comparé à de nombreux livres de parentalité fondés sur des injonctions générales à la bienveillance, il se distingue par son caractère très opérationnel. Les dialogues, illustrations, exercices et fiches transforment des principes relationnels en comportements observables. Sa méthode reste exigeante, elle réclame du temps, de la cohérence et une adaptation à l'âge, au tempérament et au contexte de chaque enfant. Elle ne remplace pas une aide spécialisée lorsqu'une situation familiale est grave ou durablement préoccupante. Mais comme guide de pratique quotidienne, le livre demeure une référence accessible pour articuler fermeté, respect et coopération. Si vous souhaitez soutenir Adèle Faber, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.